En quête de sens, vous est présenté par la Mutuelle Saint-Martin. Mutuelle santé efficace et fraternelle depuis 75 ans. En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Se jurer amour et fidélité malgré les tracas, les tragédies de la vie et surtout malgré les évolutions et les transformations que peuvent évidemment vivre l'un et l'autre au sein du couple. Au départ, c'est l'amour fou, les feux sont tous au vert, comme si rien ne pouvait altérer un si grand amour. Quand il devient impossible, un jour, de supporter la faiblesse de son conjoint, comment faire alors pour ne pas s'emporter et surtout pour continuer à s'aimer? Faut-il au fond répondre aux besoins de son conjoint? Jusqu'où peut-on et faut-il aimer? Vaste question que nous allons tenter d'explorer avec mes trois invités dans cette émission. En quête de sens, mesdames et messieurs, bienvenue. Ludivine Casili, bienvenue.
Bonjour Marie-Ange.
Vous êtes toujours hypnothérapeute, psychothérapeute, formatrice. Vous accompagnez les adultes, mais aussi, hein, on peut le mentionner, les DRH et les entreprises pour s'affirmer et oser être soi. On peut mentionner votre ouvrage « L'audace d'être libre », toujours d'actualité, oui. Au courrier du livre, ça vous fait marrer. Et « L'emprise douce » qui sort le 30 avril. Toujours chez le même éditeur, en lien évidemment avec notre émission. On va voir comment et pourquoi Catherine Demangeau est aussi avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour Marie-Ange.
Ravie de vous revoir. Vous êtes vous-même thérapeute de couple, sexothérapeute. Vous êtes podcasteuse, on peut mentionner le titre, hein, bien sûr, qui même me suivent sur les réseaux. Et puis enfin, nous sommes en ligne avec Bénédicte Lussereau. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Marie-Ange.
Ravie de vous entendre. Vous êtes toujours conseillère conjugale, thérapeute de couple. Vous et vos nombreux ouvrages, on en mentionne quelques-uns. Peut-être prendre soin de son couple chez l'Emmanuel, garder le cap après le mariage chez Arthège. Quoi d'autre, chère Bénédicte, en lien avec notre émission du jour?
Eh bien, pourquoi
déjà pas mal.
L'ABC du pape François pour les couples, parce qu'il dit des choses vraiment intéressantes sur ces questions.
Ouais. Bah, écoutez, voilà.
Pourquoi pas?
Pourquoi exactement? Vous m'ôtez les mots de la bouche. Merci les amis d'être là, d'avoir répondu présent pour ce sujet complexe. Faut-il répondre aux besoins de son conjoint? Avec cette question sous-jacente que j'ai envie de vous poser, je viens de poser en introduction de cette émission, Ludivine. Attention, ça tombe sur vous. Sauf si Catherine veut absolument répondre, voire Bénédicte Lussereau. C'est vrai, on peut se poser la question, jusqu'où doit-on aimer l'autre en fait? Parce que répondre aux besoins, c'est une preuve d'amour, Ludivine. C'est compliqué de se situer par rapport à ça. Vous voyez, où démarre l'emprise en fait? Où démarre le sauvetage plutôt?
Oui, alors après, sur l'emprise,
c'est
encore un autre sujet. Le sauvetage, c'est aussi un autre sujet. Mais je pense que pour essayer de faire court sur cette question-là, déjà, parce que si on commence par faire long, ça va être très long, c'est de commencer par écouter ses propres besoins et ses propres limites.
C'est comme le masque qu'on met dans l'avion, on commence par mettre son masque avant de mettre celui de son enfant.
Je pense que c'est pas mal, oui, comme idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence par écouter les besoins de l'autre sans écouter ses propres besoins, pour moi, on n'est déjà plus dans l'amour. Et je vais même aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que si l'autre n'est pas capable d'écouter qu'on puisse avoir des propres besoins et des propres limites, est-ce que c'est de l'amour?
Donc ça, il vaut mieux le savoir, comment peut-on dire, l'analyser, l'observer avant de se marier tant qu'on y est. Bénédicte Lussereau. Pardon. J'allais poser la question à Bénédicte Lussereau.
J'allais juste préciser, je pense que c'est quelque chose qui se re-questionne tout le couple, en fait. Je pense que nos besoins, nos limites, et vous en avez parlé en introduction, le mouvement qu'on vit dans la vie en avançant
c'est
en âge...
C'est imprévisible en plus,
bien sûr,
d'accord avec ça. Hein.
Et c'est ça qui est intéressant aussi.
Mais oui, c'est le sel de la vie. Bénédicte Lussereau, qu'en pensez-vous d'émission?
Moi, je pense que on a des besoins propres, qui sont des besoins personnels. Et quand on est enfant, ces besoins, ils sont comblés par nos parents, par notre maman, entre autres.
Ouais.
Mais quand on est adulte, on a la responsabilité de trouver la réponse à ces besoins de façon personnelle. Ça, ce sont les besoins propres. Par contre, on a des besoins relationnels. Et dans ces besoins relationnels, il y a les besoins conjugaux qui ne peuvent être satisfaits, par exemple, sexuels. Eh ben, ils vont être satisfaits par mon conjoint. Je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre de venir remplir ces besoins-là. Et d'ailleurs, quand ils ne sont pas satisfaits, justement, c'est là où il peut y avoir infidélité, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et par contre, il y a des besoins relationnels, d'affection, d'amitié, de mondanité, pourquoi pas, qu'on peut remplir soi-même et que le conjoint n'est pas obligé de remplir à notre place. Donc je pense que c'est très important de faire la distinction entre les besoins que je peux prendre en charge moi-même, parce que je suis adulte, que j'ai une liberté à exercer, que je dois apprendre à me connaître et à aller trouver comment je vais trouver la satisfaction de mes besoins personnels et propres. Et puis, quels sont les besoins qui appartiennent à la relation de couple? Et donc là, c'est légitime quand même que je fasse entendre à mon conjoint que j'aimerais qu'il satisfasse certains besoins qui font partie de la relation du couple.
Ouais, et ça, peut-être que ça fait défaut, en tout cas chez nos amis, nos amis catholiques qui nous écoutent, chrétiens ou catholiques en particulier, parce que c'est un... Vous voyez, on a cette espèce d'idée reçue selon laquelle il faudrait d'abord faire passer l'autre, toujours l'autre, avant soi, etc. Bon, Bénédicte, on en reparlera, mais ça pose beaucoup de questions, cette affaire de évidemment, mettre son couple au premier plan, etc. etc. Catherine de Mangeau. Premier petit tour de table autour de cela, où commence effectivement le...
Je vais rebondir, moi, sur ce sujet du sauveur, parce que finalement, moi, je pense que dans l'enfance, on a une grosse carence par rapport à l'identification et à l'expression de nos besoins. Dans l'enfance, de plus en plus aujourd'hui, parce que depuis qu'on applique des règles de psychologie positive hein, dans le domaine pédagogique, on s'intéresse à cette question des besoins. Mais pendant très très longtemps, effectivement, on n'a pas aidé nos enfants à identifier leurs besoins. Et d'ailleurs, au niveau social, au niveau familial, on entendait toujours cette phrase qui était « Ah, mon Dieu, si tu dis je veux ou je voudrais, le roi dit je veux. » C'est-à-dire, ça passait pour une forme de presque de terrorisme relationnel et on ne comprenait pas les bénéfices de tout ça. Effectivement, on est parti de certaines idées préconçues qui étaient que comme on aimait, on devait comprendre, c'est un peu la pensée magique de l'enfant, là je rejoins Bénédicte, on ne devait pas avoir besoin d'exprimer ce qu'on attendait, nos besoins. L'autre, on partait d'une fausse croyance qui est « si tu m'aimes, tu dois deviner qui je suis, tu dois me lire, tu dois savoir de quoi j'ai besoin et tu dois satisfaire mes besoins. Ouais. » Moi, je dirais que dans cette espèce de parcours de couple, de chemin, on va seulement se pencher sur nos besoins relationnels, mais on va aussi potentiellement, à minima, aider notre partenaire qui ne sait peut-être pas le faire, à identifier et à satisfaire ses besoins personnels aussi. Mais il faut qu'il nous le demande. Parce que si je donne à manger à quelqu'un qui n'a pas faim, alors que ça part d'un super bon sentiment, hein, d'une posture altruiste, on est un peu dans la parabole de Job, hein, je veux donner, je donne et puis je suis content parce que j'ai donné, mais si je donne à quelqu'un qui n'a pas faim, je risque de déclencher chez lui des troubles du comportement
ou
alimentaire
même,
à terme.
C'est intéressant ce que vous dites, effectivement, Catherine de Mangeau, je dirais, penser pour l'autre, c'est quand même le gros travers dans les couples, j'imagine que Ludivine Casili, c'est une constante, celle-là, cette donnée-là, penser pour l'autre, il doit avoir elle doit avoir besoin d'eux, c'est sûr.
C'est précisément le sujet du nouveau livre, mais pour l'autre, j'ai envie de dire, c'est pas que dans le couple, c'est dans la vie de tous les jours. Dans le pro, dans le perso, on a tendance à penser pour l'autre, mais pas pour mal faire. On a tendance à anticiper un besoin. Ouais. Et on a anticipé un besoin parce qu'on ne nous a pas appris à écouter. Parce qu'on ne nous a pas appris l'écoute active. Et donc, j'allais dire la pensée par le vide, mais juste écouter quelqu'un et lui dire justement de quoi tu as besoin, plutôt que de lui donner de manière instantanée un conseil, on ne le fait pas. Et c'est assez naturel, on fait tous la même erreur. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, on va dire « Ah, mais tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. »
C'est vrai.
Au lieu de lui dire « Et là, de quoi tu as besoin en fait comment je peux t'aider ?» Et du coup... Ça mêle un peu tout ça, parce qu'effectivement, comme vous disiez, ça crée à un moment donné un problème où on finit par anticiper un besoin qui n'est peut-être pas là. Et Bénédicte parlait tout à l'heure de besoin sexuel, j'ai envie de dire même dans le besoin sexuel. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer une société où, et d'ailleurs elle existe certainement, où le besoin sexuel est comblé par l'autre, mais aussi peut aussi se satisfaire tout seul. On n'est pas forcé d'attendre que l'autre comble aussi notre besoin sexuel. Je pense que c'est une écoute dès le départ dans le couple qui peut aussi bouger au fur et à mesure des avancées du couple, parce que on n'a pas les mêmes désirs à 20 ans quand on se marie, ou à 30 ans, ou à 40 ans, qu'on les a aujourd'hui à 50, en tout cas pour moi.
En fait, c'est un peu, en vous entendant en ce début d'émission, j'ai l'impression que c'est très difficile de trouver le point d'équilibre entre les deux, entre penser à prendre en considération ses propres besoins et ceux de l'autre, Bénédicte Lussault. J'ai l'impression que c'est une équation qui est d'une complexité hallucinante, non ? Je ne sais pas, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses, mais...
En fait, je pense que c'est ce qu'on appelle la maturité affective. C'est-à-dire la maturité affective, c'est être capable de ne pas se mélanger à l'autre, de se connaître suffisamment pour savoir ce qui m'appartient et ce qui est du domaine de l'autre. Donc ça, effectivement, ça s'acquiert. Et ça s'acquiert dans le dialogue, dans le respect, dans... Mais moi, j'ai envie de revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Marie-Ange, en parlant des catholiques. Mais en fait, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce qui veut dire que si je ne m'aime pas en prenant en compte moi-même mes propres besoins, de fait, je vais avoir du mal à aimer l'autre et à me laisser aimer par l'autre. Parce qu'il va y avoir, de fait, quelque chose de tordu dans la relation. On sait très bien que quelqu'un qui ne s'aime pas... va avoir une vision de ce qu'est l'amour tordue. Il va souvent être dans une dépendance affective qui va faire qu'il va avoir besoin de l'autre. Et ça, c'est très mauvais. Quand on commence à rentrer dans quelque chose où l'autre est utilisé à mon propre profit parce que je ne peux pas marcher tout seul.
Red flag.
Voilà. Et ça, c'est un manque de maturité affective. Si je ne peux pas tenir debout tout seul et que j'ai besoin de la béquille de l'autre, il peut y avoir des passages dans la vie où c'est comme ça, mais ça ne doit pas durer. On ne peut pas fonder une relation sur quelque chose de déséquilibré. Il y a un moment ou un autre où ça ne va pas aller.
Ouais, et c'est là où je trouve que c'est très difficile, vous voyez, je ne sais pas ce qu'allait dire Catherine de Mangeau, peut-être avez-vous un mot à ajouter, mais quand on traverse l'un ou l'autre, ce qui s'appelle la vie, mais une épreuve, un licenciement, une situation qui ne se résout pas, l'attente d'un enfant qui n'arrive pas, les enfants au contraire qui prennent toute la place. Enfin, je veux dire, il y a ici un enquête de sens, on en entend tous les jours des vertes et des pas mûres sur la vie, sur ce qu'est la vie. Alors, on peut dire que ça fait son charme, mais on peut voir aussi tout le contraire. Vous voyez ce que je veux dire, les amis ? Catherine de Mangeau, c'est quand même... pas évident de à la fois de rester toujours à l'écoute, faire tout ce que vous dites toutes les trois de façon très très sage, mais quand il y en a un qui est en déséquilibre par rapport à l'autre, les licenciements, les enfants qui bouffent sous l'espace du couple, on en voit plein des témoignages comme ça, il y en a plein les réseaux, quoi.
Ça nous paraît compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude
de...
On n'a pas l'habitude d'être à l'écoute de nos besoins et de nos désirs. Parce que moi, en règle générale, je suis toujours cet axe dans mes accompagnements, c'est-à-dire trois choses qui sont importantes, les valeurs, les besoins et les désirs.
D'accord.
Quand on n'est pas habitué depuis petit à écouter ça, forcément, ça nous demande des efforts. Et c'est beaucoup plus facile d'être dans le pilote automatique et de se laisser, de réagir comme on peut avec les moyens qu'on a. Et tout le monde fait toujours de son mieux. Ça, j'en suis convaincue, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants. Mais à un moment donné, il faut décider, quand on se heurte à une impasse, il faut décider de sortir du pilote automatique et de reprendre les choses en main. Mais c'est pas facile, parce que là on est avec cette histoire des besoins dans quelque chose qui est que dans la compréhension du fait que le couple, ça s'apprend. La mécanique conjugale, le couple, la relation, ça s'apprend. Et pour vivre effectivement une relation saine, il faut pouvoir apprendre à faire ça, à identifier nos besoins, à identifier nos désirs. Les valeurs, c'est toujours facile en règle générale, surtout quand on est en couple, qu'on fonde une famille. En général, on a à peu près les mêmes valeurs.
D'accord.
Mais il faut aussi se dire une chose, c'est qu'on n'a pas les mêmes besoins, que ce soit les besoins personnels ou les besoins relationnels, on n'a pas toujours les mêmes besoins au même moment, ni les mêmes désirs au même moment
comment,
que notre conjoint.
C'est impossible de vivre en couple.
Il y a des désaccords. Il y a des désaccords. Et les couples heureux, ça c'est les travaux de John Gottman hein, qui nous éclaire là-dessus, les couples heureux, ils arrivent à se mettre d'accord avec des désaccords. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils savent gérer les priorités et ça n'est même pas une... La question ne se pose même pas. C'est-à-dire que là, on va être plutôt... Moi, j'aime beaucoup... Alors, je ne sais jamais si c'est Leibniz qui est à l'origine de cette phrase, mais aimer, c'est aussi aimer que l'autre s'épanouisse en dehors de moi. Ça veut dire que si, à un moment donné, mon conjoint a des besoins personnels qui vont à l'encontre des besoins du couple, si c'est permanent, ça ne va pas durer. Mais par contre, si à un moment donné, on est bien clair sur cet aménagement-là, cet ajustement-là, et qu'on est créatif, qu'on accepte, voilà, c'est peut-être... Les concessions, les compromis, ça fait pas des bons couples, hein, en règle générale. Mais qu'on accepte que ça va durer un certain temps et que ça sert la cause de l'un ou la cause de l'autre, on est peut-être prêt à faire ce choix ou ce petit pas.
Pourquoi ça marche pas les compromis rapidement ?
Bah parce que c'est des consensus mous et qu'en fait, dans les compromis, justement, personne ne prend sa place. Donc personne ne parle de ses besoins, personne ne parle de ses désirs. On fait beaucoup de projections, on s'identifie beaucoup et on est souvent dans les jeux psychologiques. C'est-à-dire, voilà, j'ai raison, tu as tort, machin, ah bah, j'ai fait tout ça, ah bah si tu m'aimais vraiment, voilà, il y a des petits règlements de compte, quoi. Souvent dans le consensus mou, au bout d'un moment, ça finit par claquer.
Voilà. Divine Casilli, oulala. Ça nous emmène déjà très loin cette histoire.
Non, mais il y a tellement de choses à dire. Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Moi, c'est vrai que dans les accompagnements, vous parliez, Catherine, de besoins de désir et de valeur. Moi, je parle de besoins de lien et de valeur, mais on n'est pas dans une société qui nous a appris à faire ça pour nous. On n'a pas grandi en nous apprenant à poser nos limites, nos valeurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et par contre, ce qu'on nous a appris, c'est que le couple, c'est deux personnes qui vivent ensemble, qui font des enfants, qui ont globalement les mêmes centres d'activité, les mêmes intérêts, qui vont voir des amis ensemble. Et dès qu'on sort un peu de ce postulat-là, on paraît complètement lunaire. Alors, moi, je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est le mien, mais moi, par exemple, malgré mon couple, je pars en vacances toute seule. En 10 jours, je repars toute seule.
J'adore l'idée.
Et quand je dis ça, on me regarde en me disant « mais il te dit rien ?» Mais je vois pas pourquoi il me dirait quelque chose. En fait, je pars en vacances. Et c'est pas contre lui que je pars en vacances seule, c'est parce que...
Vous en avez besoin.
Bah, j'en ai besoin, et puis lui, ce que je vais faire ne lui correspond pas. Donc je vois pas pourquoi je lui infligerais un truc qui ne lui plaît pas et lui bouffer 15 jours de vacances qu'il pourrait vivre autrement sur un truc que moi, je n'aimerais pas.
Il est comme vous, c'est-à-dire que ça lui fait plaisir de partir seul aussi en vacances.
Ben bien sûr, mais j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux parce qu'on n'est pas obligé, parce qu'on est un couple, de vivre toutes les mêmes choses tout le temps. Au contraire, je trouve que l'enrichissement qu'on s'apporte à vivre des choses différentes est bien plus intéressant. Mais c'est pas le postulat de départ du couple. Et ça demande de se re-questionner. Et j'ai été la première à me re-questionner beaucoup les premières fois où je me suis dit ça.
Mais pourtant, on dit beaucoup qu'il faut faire des efforts aussi.
Mais oui, mais ça n'empêche pas d'en faire.
Ah oui, d'accord. Moi, j'y comprends rien, cette histoire.
Bon, je vous propose de nous séparer musicalement l'amoureux de ma femme, de Richard Anthony. Comme ça remet les bases.
On remet les bonnes bases.
Les pendules à l'heure, exactement. À tout de suite.
En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Qu'est-ce qui me prend ? Je me sens soudain tout drôle. Comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui ? Je suis amoureux de ma femme. Merveilleuse et tendre douleur. Comme un collégien, je suis amoureux de ma femme.
Est-il vraiment sérieux?
Je la trouve belle, je la chante sur toute la gare.
Ça, quand on est amoureux.
Demain, je brise les ponts. Je prends 2 billets d'avion et je vais me l'emmener prendre des vacances. Depuis longtemps déjà n'existait plus rien, nous restait seulement la consentement.
sais que c'est elle mon unique amour. C'est drôle aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme.
Bizarre, c'est tout à fait normal.
Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme.
Tellement dans son état normal.
Je me sens prêt à passer 3 jours à rester couché, 3 jours à lui faire l'amour, 3 nuits sans dormir, 3 jours sans sortir. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes, et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles, j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. Quelle chance, aujourd'hui je suis amoureux de.
Et voilà, ce qui donne évidemment de l'élan pour répondre à cette question. Faut-il répondre aux besoins de son conjoint ? Ce serait bien s'il suffisait de dire qu'on est amoureux de sa femme ou de son mari pour l'aimer toute sa vie. Eh bien, en tout cas, non. Bon, bravo Marie-Ange Montesquieu, bravo, bonjour le message. Ludivine Casilli est avec nous, hypnothérapeute, psychothérapeute qui a publié L'Emprise 12 qui sortira le 30 avril, mais avant L'Audace d'être libre, au courrier du livre On peut être libre à deux. Et la preuve avec vous, Ludivine Casilli. Catherine Demangeau est avec nous également. Thérapeute de couple, sexothérapeute qui a créé le podcast Qui m'aime me suive, c'est bien ça, hein, qui m'aime me suive. Voilà, sur les réseaux. Et enfin, Bénédicte Lussereau, en ligne avec nous, conseillère conjugale, thérapeute de couple, qui a écrit beaucoup, beaucoup d'ouvrages, dont Garder le cap après le mariage chez Arthège, Prendre soin de son couple, Anne Emmanuel. Et puis l'ABC des couples par le pape l'ABC du pape François pour les couples, pardon. Évidemment, Bénédicte Lussereau, c'est à vous de parler autour de ce truc très compliqué. Non mais avouez que c'est quand même hallucinant, c'est hyper compliqué ce que vous racontez depuis le début toutes les trois.
Mais de toute façon, le couple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Tous les thérapeutes disent que la conjugalité, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et c'est vrai. D'accord. En même temps, c'est passionnant. Ouais. Parce qu'on est chacun dans le couple à discerner qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je ne donne pas.
D'accord.
À quel moment, quelle est ma limite, à quel moment je vais disparaître dans la relation.
Ouais.
Et moi, j'aimerais bien faire la distinction quand
Allez-y.
Même entre besoin et désir. En fait, on n'a pas trop fait cette...
Vous avez raison, Bénédicte.
Cette distinction, parce que enfin, moi, je la fais de façon très sommaire. Alors, ça pourrait être beaucoup plus élaboré. Mais moi, j'explique à mes patients, le besoin, c'est de l'ordre du vital. C'est-à-dire, un besoin qui n'est pas rempli, ça met en colère. Ça, colère, parce qu'il y a une injustice, il y a quelque chose dont j'avais besoin pour vivre, et qui ne m'est pas donné, qui m'est enlevé, que je ne trouve pas.
Faut-il les identifier ? Faut-il les savoir, les identifier ?
Ça m'empêche de vivre.
Ouais.
Voilà. Oui, mais quand même, quand on est en colère... on peut se poser la question quel besoin n'est pas satisfait.
Mmh.
Alors qu'un désir, un désir, c'est beaucoup plus... moi, je dis, le désir, il est source de vie, il est tourné souvent vers la personne. Le besoin est assez matériel. Le désir, il est plus, alors j'allais dire spirituel, il est plus source de communion, il est plus tourné vers l'autre, vers son élan vital. Et quand un besoin n'est pas satisfait, on est en colère. Quand un désir n'est pas satisfait, on éprouve une frustration. C'est
D'accord.
pas la même chose. La colère et la frustration, eh ben, y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Qui, quand ils sont frustrés, ils se mettent en colère. Alors que la frustration, on peut sublimer une frustration. Mmh. Alors que la colère, elle est là. Je veux dire, la colère, c'est quelque chose, c'est même, ça va aller... ça va être une pulsion de vie qui va nous pousser à satisfaire le besoin dont on a qui est vital pour nous. Alors qu'on peut très bien vivre frustré de que j'ai envie d'un voyage en Italie, c'est un grand désir que j'ai, ça me fait rêver. Et ben si ce voyage ne se réalise pas pour X raisons, je ne vais pas en mourir et je serai frustré, mais je peux continuer à vivre tranquillement. Et donc, c'est quand même D'accord. pas la même chose.
Ouais, sauf que, alors oui, peut-être Catherine Demangeau, vous vouliez rebondir là-dessus. Moi, je me disais que quand ça dure pendant des années et qu'on est frustré pendant des années, qu'on conserve ça sous une cocotte, sous un couvercle, après, et peut-être c'est difficile, peut-être c'est plus difficile après alors d'identifier et d'exprimer. Il y a des couples comme ça qui s'endorment sur des frustrations
rentrés, comme on dit. Enfin, vous voyez, qui sont bouclés, qui sont mis sous clé, quoi.
Il y a une usure. Il y a une usure, peut-être. Si une frustration ponctuelle, la frustration, c'est bon. Savoir les bœufs, c'est important aussi. Hein, on n'est pas omnipotents. Voilà, on n'est pas des enfants gâtés.
On n'est pas des dieux.
Un peu de frustration, ça peut pas faire de mal, bien sûr, mais au compte-gouttes, effectivement, dans la durée, c'est presque un travail de sape relationnel. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait pour accepter ça? On se dit « Ah, mais je l'aime tellement, j'aime tellement notre couple. Oh, ben, je peux accepter de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. » Et au bout d'un moment, on finit même plus par y penser aux concessions que l'on fait. Parce que quand j'y pense, après, je souffre. Ça amène de la souffrance. Voilà, un peu de viande de temps en temps, pourquoi pas. Un peu de machin, enfin un peu de tout, quoi. Les régimes.
On sait bien qu'il y a une fin, en général, à servir. Mais dites, Lustreau, c'est vrai que c'est intéressant, parce que je trouve que moi, ce que vous dites là, peut-être serait-il bon de le dire parfois aux personnes qui vont s'engager dans une relation, dans le mariage. Enfin.
Oui, mais là, par exemple, on donne des exemples où la frustration, elle reste. Mais moi, j'ai envie de donner plein d'exemples.
Allez-y.
C'est possible de s'aimer en couple parce qu'on va entendre le désir de son conjoint, du coup. Et du coup, on va aller de temps en temps dans son sens, même si ce n'est pas mon sens. Mm-hmm. Et il faut que ce soit réciproque, ce mouvement.
D'accord.
Je vais vers l'autre et vers ses désirs les plus profonds, parce que j'ai envie que mon conjoint se réalise en tant que personne, et on sait que l'accomplissement des désirs, ça permet de se réaliser en tant qu'individu. Et donc moi, mon plus profond souhait, c'est que la personne que j'aime puisse se réaliser. Donc s'il a envie de faire de la musique, s'il a envie d'aller visiter des musées, s'il a envie d'avoir tel travail professionnel, etc., je vais mettre en œuvre parce que je l'aime. Et c'est source d'amour aussi. Je vais pas non plus me sacrifier tout le temps quand je permets à l'autre de réaliser ses désirs. Il faut s'enlever de la tête que c'est l'un contre l'autre. Mmh. En fait, c'est à deux qu'on va construire quelque chose, et la façon dont je vais me donner à mon conjoint, qui va lui permettre aussi de se réaliser, mais en même temps, ça me réalise. Parce que le don de ma personne fait que je grandis aussi. Je ne suis pas dans la négation de moi-même à chaque fois que je me donne pour l'autre. Il faut arrêter cette idée. Parce que là, on se met en concurrence l'un contre l'autre, alors que c'est pas ça.
Oui.
L'amour profond et véritable. Alors, je suis d'accord que par contre, il faut pas confondre n'importe quel besoin. Alors, je vous donne un exemple.
Allez-y.
Moi, j'ai reçu, il y a des années, un couple, et le monsieur disait, elle est arrivée très en colère. Et parce que lui avait imposé une opération mammaire pour avoir des seins plus volumineux.
Ouais.
Et en fait, ce monsieur disait, mais moi, je n'étais pas sûre de moi, je n'étais pas sûre de pouvoir soutenir mon désir sexuel vis-à-vis de ma femme. Et donc, je l'ai obligée. Donc, vous voyez, là, on tombe dans l'emprise.
Waouh.
C'est-à-dire que monsieur avait son besoin dans sa tête d'avoir une femme qui avait une poitrine volumineuse, en se disant que c'était ça qui allait soutenir son désir sexuel, et elle, qui à l'époque avait peur qu'il la quitte.
Ouais.
Et là, vous voyez, ce jeu-là, il est très malsain.
Ouais.
Parce que du coup, elle a été comblée un désir, un besoin mal situé de son mari, et du coup, elle est tombée dans le piège, et évidemment, des années après, elle lui en veut et elle se révolte. Et ça, c'est
ouais.
Le problème du besoin et de confondre le besoin, le désir, c'est qu'après on va tomber dans la manipulation, on va tomber dans un espèce de jeu de pouvoir. Ah mais si tu m'aimais, tu ferais ce que je te demande. Mais pas du tout. Si je t'aime, je fais pas nécessairement ce que tu me demandes. Je parle avec toi et on est deux personnes libres et on s'écoute mutuellement pour savoir ce que tu désires. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que moi je peux t'aider à le réaliser? Est-ce que c'est intéressant pour notre famille? Est-ce que ça va nous apporter un plus à tous les deux? Enfin, c'est vraiment, vous voyez, c'est pas un bonbon qu'on va donner à l'autre.
Ouais. Ah, c'est subtil, hein, Ludivine. Effectivement, c'est, on n'est pas, on fait pas du, on fait pas du marchandage, en fait.
Non, et ça
question.
Pardon, ça questionne un autre sujet aussi, mais qui est sous-jacent à tout ça, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire que chacun doit aussi reprendre la responsabilité de ses besoins, de ses désirs, mais pour oui. ne pas basculer dans le « oui, mais j'ai fait ça parce que tu m'as dit que… » Parce que c'est ça, enfin, je vous parlais tout à l'heure des témoignages dans le dernier livre, dans l'emprise douce, qui est justement, et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, c'est-à-dire que l'emprise douce, c'est pas l'emprise, c'est pas le moment… comme vient de l'expliquer Bénédicte, où on dit à sa femme, tu te fais refaire les seins parce que ça ne me plaît pas, et où il y a peut-être une dépendance affective ou un manque de confiance qui fait qu'elle y va. En prise douce, c'est le truc plus insidieux. Hein, c'est le, oui, mais quand même, si tu m'aimais, tu vois, tu pourrais, ah bon, tu vas manger au restaurant avec des amis, mais tu rentres pas trop tard, hein, parce que sinon, moi, je vais t'attendre et j'aime pas me coucher sans toi. En prise douce, c'est ça, c'est cette espèce de quotidien qui est, et qui est, là on parle du couple, mais on pourrait l'élargir largement à l'amitié, aux professionnels, c'est la même chose. Et ça demande de revenir à sa responsabilité, c'est de dire, ok, si je choisis à un moment donné de ne pas répondre, ou de ne pas aller à l'encontre de ça, l'autre est en tort de me le faire vivre, mais moi je suis en tort de l'accepter.
Absolument.
Et de revenir à, ok, moi, de quoi j'ai besoin ? Quelle est ma limite par rapport à ça ? On a de la chance, on a une langue avec plein de mots et on a les questions ouvertes. Et le comment, et le quel, et les de quoi, et le pourquoi sont des mots, à mon sens, qu'on n'utilise pas assez.
Hein, de quoi pas j'ai... autant que les enfants.
C'est vrai.
Dommage.
C'est vrai. Mais il oublie, il les oublie après, alors que c'est,
pourquoi,
à mon
comment,
sens,
pourquoi,
la base
pourquoi.
De tout. Pourquoi tu me demandes ça ? De quoi tu as besoin là ? Et vous parliez de crise tout à l'heure, et c'est pareil. Ok, tu es en train de vivre un licenciement, je comprends que ce n'est pas une situation qui est facile pour toi. Comment je peux t'aider ? Et pas, viens, je te mets sous cloche, ou oui, mais ça va s'arranger, ou... parce que c'est ça qui, au bout d'un moment...
Alors, tu te rends pas compte, pour moi aussi, c'est dur. Ça, c'est vraiment
oui.
le... Alors,
oui.
en même temps, on peut la comprendre, la personne,
mais bien
l'autre.
Sûr, bien sûr, si, je comprends. Et c'est là qu'on a la conversation, je comprends que ce soit difficile pour toi. Comment je peux t'aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour sortir de cette situation ?
L'un et l'autre.
Mais l'un qui respecte l'autre. Et effectivement, on a tendance à trop oublier que le couple, c'est deux identités et deux entités qui sont différentes. Et qu'on va créer ce couple qui fait une troisième quasiment personne, mais en respectant aussi l'histoire que chacun a vécue. On n'arrive pas avec la même histoire, on n'arrive pas avec la même éducation, on n'arrive pas avec la même culture, on n'arrive pas avec les mêmes traumas, avec les mêmes fragilités, avec les mêmes vulnérabilités. Et tout ça, si on passe notre relation juste au filtre de qui nous sommes nous, ça ne peut pas fonctionner. Parce que l'autre en face n'a pas la même carte,
Vous savez, il y avait une époque, hein, dans nos familles, alors souvent un peu catholiques, les pauvres, à chaque fois, ils disaient, décidément, celle-là, où est-ce qu'elle est ? C'est pas très catholique ce que je vais vous dire, et en même temps, ça illustre bien ce qu'on dit, c'est ce qu'on disait, en tout cas jusqu'à une certaine époque, on disait, comme si c'était une grande vertu de l'être dévoué. Elle était dévouée. Vous voyez, comme si... Alors, Bénédicte, évidemment que je vois ce que vous voulez dire, vous voyez.
Marie-Ange.
on les voit, ces vieilles tantes, les idées. Mais c'est pas possible. À un moment donné, aujourd'hui, en tout cas, vous l'avez dit d'ailleurs, Catherine de Mangeau, l'éducation positive, on exprime beaucoup plus les choses. Ça, c'est pas possible, ça, c'est possible. Ça, j'en ai besoin, ça, je le désire. Enfin voilà, on a le vocabulaire, c'est tough, et aujourd'hui on en parle heureusement. Mais cette histoire de se dévouer, la Vierge Marie était dévouée. Enfin, vous voyez, il y a des personnages comme ça, clés, archétypes maintenant même. Et c'est difficile parfois de faire la part des le tri, vous voyez, déjà sémantique, mais même dans la vie de tous les jours, en couple, c'est compliqué de s'identifier ou pas d'ailleurs. C'est archétype. Je suis un peu, je m'égare un peu, mais pas tant que ça, Bénédicte, quand même, parce que ce dévouement-là.
Mais quand même, ça a beaucoup changé quand même, parce que le contenu du mariage, aujourd'hui, on se marie par amour, contrairement à il y a très peu de temps où on se mariait par convention sociale, pour faire vivre les familles les uns des autres, etc. Donc déjà, la base est très différente, parce qu'au démarrage, autrefois, il fallait bien du dévouement pour obéir à papa-maman qui nous mariait avec la famille voisine. Bon, là, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Le dévouement, c'est un dévouement d'amour. Si je rentre plutôt du boulot pour aller chercher les enfants à la crèche, alors que c'est pas mon jour, mais que je le fais par amour de ma femme qui a une réunion importante ce jour-là, et je trouve ça important qu'elle puisse elle aussi avoir ses réunions importantes au boulot, etc. Et donc j'assume mes responsabilités de père et je décale mon emploi du temps, mais par amour de ma femme, on peut appeler ça du dévouement.
Ça, c'est
mais
bon.
En fait, je suis responsable parce que je suis un père responsable, je suis un mari aimant de ma femme et du coup, j'assume la responsabilité de ma famille. Ça n'a rien de... Enfin, je veux dire, c'est juste, je rends service, mais parce que j'assume ma responsabilité de mari et de père.
D'accord.
Donc, c'est pas quelque chose de suranné, de vieux, de... C'est très actuel. Moi, je suis épatée des pères aujourd'hui, de la façon dont ils s'engagent auprès de leurs épouses pour parce que les deux travaillent, donc en fait pour la vie commune, mais ils le font pas dans un espèce de dévouement de devoir, ils le font vraiment par amour de leur épouse et de leurs enfants. Moi je trouve ça magnifique, hein. Parfois c'est compliqué à mettre en œuvre, mais ils le font pas par un sens du devoir suranné, vous voyez ce que je veux dire.
C'est un petit peu quelque chose en voie de disparition, selon vous. C'est une espèce de on a changé d'époque, quoi. Pour le coup, vous trouvez que le problème ne se situe pas à ce niveau-là, en gros.
De toutes les façons, aujourd'hui, si on n'est que dans le dévouement et tout, il y a un déséquilibre dans la balance, et puis on se quitte, hein. Les couples, ils vont pas rester... Le déséquilibre est trop important... justement, s'il y en a qu'un qui satisfait ses désirs au détriment de l'autre, y a un moment où l'autre il tire la sonnette d'alarme et il dit stop, moi je veux pas continuer là-dedans.
Ouais, c'est vrai. For Your Eyes Only, Sheena Easton. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
For your eyes only, I never
rien que pour vos yeux. Une autre histoire. Faut-il répondre aux besoins de son conjoint? En tout cas, Ludivine Casilli est avec nous, ainsi que Catherine Demangeau et Bénédicte Lussereau. Je ne t'ai rien demandé. J'ai noté sa faille. Effectivement, Ludivine Casilli, pensez, on revient à cette affaire d'imaginer, de penser pour l'autre. Voilà l'exemple typiquement que vous évoquiez à l'instant hors antenne.
Oui, l'histoire, soit pour les adultes, soit pour les enfants d'ailleurs, mais puisqu'on parle du couple, on va rester sur le couple, mais quand on anticipe le besoin de l'autre, alors là je donne un exemple, quand on est enrhumé ou malade et que l'autre nous dit « prends rendez-vous chez le médecin », qui va nous dire une fois, deux fois, trois fois, dix fois, et en fait on se dit « mais en fait je t'ai demandé, je vais bien, je me sens bien, donc si j'ai besoin de prendre rendez-vous chez le médecin, si je me sens malade au point de
prendre,
je le ferai, je suis adulte, et si je ne le fais pas, c'est ma responsabilité.
En fait, on infantilise l'autre.
Oui, mais
bien souvent.
C'est vraiment au nom de l'amour, c'est de se dire mais je le fais pour toi. Mais non, en fait, tu le fais pas pour moi. Tu le fais pour te rassurer toi et te dire que tu m'as aidé à un moment où j'avais eu malheureux.
Ça on va tout le temps.
Mais bien sûr, c'est ce que moi j'appelle l'emprise douce. Mais oui. Et c'est quand je dis l'embrise douce, c'est vraiment de bonne guerre, parce qu'on le fait tous sans exception. Et c'est pas dans le domaine de l'emprise. Ouais. On n'est pas dans le domaine de l'emprise. On n'est pas non plus dans le domaine du dévouement pour moi, on est dans le besoin de se rassurer soi-même et de se dire on est là pour l'autre.
C'est pas terrible pour le couple ça.
C'est terrible pour rien en fait, c'est terrible pas en amitié, pas pour les enfants, pas pour le
c'est
couple.
C'est terrible pour rien effectivement. Catherine Demangeau, vous disiez effectivement que c'était la traduction aujourd'hui de la charge mentale, ça, c'est souvent une des conséquences de cette affaire, de cette espèce de raisonnement.
Mais disons que si je
pense pour l'autre.
Oui, penser pour l'autre, c'est une charge pour moi. Et si je projette, si je fais les questions et les réponses finalement dans la relation, moi je suis fatiguée à la fin et je me sens seule dans la relation surtout.
Donc en fait, un exemple de pensée pour l'autre très classique, voilà, en ce qui concerne alors soi, le rythme.
Non, là j'en ai pas, mais
boulot,
c'est tout
enfants,
le travail, tout le travail de projection, de penser à la place de l'autre. Ah, mais tu devrais faire ci, ah, mais tu devrais ça. Et vous disiez, c'est infantilisme. Mais la relation de couple, souvent, elle est très régressive. Elle nous amène à régresser pas mal. Et au fond, je crois que ce que j'essaye de donner à l'autre, sans lui demander exactement ce qu'il veut, c'est aussi souvent une tentative inconsciente de réparer ce que je n'ai pas reçu dans mon enfance. Donc en fait, je veux souvent donner à l'autre ce que je n'ai pas reçu et qui est peut-être pour moi une tentative de réparation de mon vécu. Ça part d'un bon sentiment, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Et
c'est pour ça qu'il est toujours, quand on fait les questions et les réponses, pour sortir de là, il est toujours intéressant de faire valider ou invalider à mon partenaire ce que j'ai projeté sur lui. Tiens, ces derniers temps, parce qu'il y a des petits parleurs et des grands parleurs dans les relations. Et quand on a un petit parleur, bon, maintenant on le sait aussi, on le comprend grâce à l'IRM, le petit parleur, ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas. Le petit parleur est juste quelqu'un qui a évolué dans un environnement familial qui était peut-être pas très expressif. Rappelez-vous des langages de l'amour, hein, tout à l'heure vous parliez de la dévotion, oui. Le fait de rendre service à l'autre, c'est un des cinq langages de l'amour. C'est-à-dire que si dans ma famille j'ai appris que rendre service c'était ma manière de dire aux autres que je les aime, et ben je vais reproduire ça. Par contre, demander à mon conjoint d'identifier ses propres langages d'amour, donc ses propres besoins, les actions qui finalement vont lui faire comprendre que je l'aime, parce qu'on parle deux langages différents en règle générale. Hein. Moi j'ai appris le syrien, il a appris le chinois. On peut parler beaucoup et on parle à côté, on se comprend pas. Donc il y a des choses à identifier comme ça qui sont importantes.
Parce qu'il faudrait pas que le mariage devienne ou l'amour conjugal devienne un sport de combat, quoi, parce que parfois c'est un peu ça qui se passe. Alors c'est vrai que Bénédicte Lussereau, vous avez raison, atterrissons en 2025, parce que histoire de pas avoir l'air d'être un dinosaure plus que j'en suis déjà un, mais aujourd'hui bien souvent les couples ne durent pas comme nos anciens, ne tiennent pas comme disaient nos anciens, mais se laissent aller à la séparation, à la rupture. Alors je dis pas que c'est non plus ça devient quasiment un sport national voire international, en tout cas dans nos sociétés occidentales, quasiment un couple sur deux, on le sait, hein, bon voilà, mais cela dit, ça reste quand même fragile, difficile et délicat, mais intéressant, cette aventure du couple où il faut à la fois identifier effectivement la part des choses entre ses besoins, faire plaisir à l'autre, parce que c'est un des langages de l'amour, vous avez raison de le dire. Bénédicte Lussereau, effectivement, faire des efforts. Quand c'est tourné vers, quand il y a une intention vraiment, non pas de se rassurer, j'aurais bien aimé avoir votre écho là-dessus. Les couples, bien souvent, ont besoin de se rassurer, hein.
Mais justement, là, quand on parlait de charge mentale, d'aller au-devant des besoins de l'autre, mais en fait, parfois, c'est pas gratuit du tout, cette histoire-là, parce que ça me valorise d'aller au-devant des besoins de l'autre. En fait, je me sens utile. Parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire autrement parce qu'elles existent dans cette position d'aller au-devant des besoins. Et effectivement, ça peut les réparer, ça peut réparer leur histoire ancienne, etc. Ce qui est important, moi, je pense qu'un jour, dans la relation de couple, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout puissant pour l'autre. Peut-être que là, il y a le deuil à faire de ce que mon amour va tout réparer pour l'autre, va le rendre absolument heureux. En fait, cette histoire du bonheur dans le couple, c'est quand même... Je pense qu'on nous piège avec... Quand j'entends encore des homélies de mariage qui parle de bonheur. Alors oui, c'est vrai, il y a du bonheur, je ne vais pas dire le contraire. C'est génial d'être amoureux. Mais enfin, c'est quand même compliqué, le couple. Et puis, on traverse des épreuves. Et puis, il faut renégocier tout le temps entre nous ce qu'on fait, ce qu'on décide, tout ça. Ouais. Donc, en fait, c'est pas simple. Mais en fait, c'est ça le bonheur conjugal. C'est de surmonter toutes ces difficultés, ces épreuves, et puis on y arrive, et puis hop, il y en a une autre qui arrive, et on continue à être solidaires, à se serrer les coudes, et puis à traverser la vie ensemble. Et on trouve des moyens. On trouve le moyen, et chaque couple va trouver la ressource, alors peut-être en se faisant aider d'ailleurs, parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut aller demander de l'aide pour comprendre qu'est-ce qui nous bloque dans la relation, pourquoi c'est si douloureux, pourquoi l'autre tout d'un coup nous insupporte. Très souvent, la base de ce qu'a fait notre contrat implicite quand on s'est mis ensemble est remis en cause pendant les années. Et donc, il faut renégocier un nouveau contrat entre nous. Mais ça se fait quand on est aidé. En fait, il faut dire au couple que c'est possible et que la séparation, c'est vraiment pas la solution à tout. Parfois, il faut savoir se séparer, mais que quand on peut pas faire autrement, parce que ça engendre de la souffrance, on le sait. Donc, il faut savoir se faire aider et se dire que le bonheur, c'est pas toujours tout de suite. Maintenant, il y a des trucs qui sont difficiles et puis ça s'améliore et ça va mieux et puis ça repart et après on retombe sur un os et puis voilà.
C'est les imprévus de la vie, quoi. C'est la vie.
C'est les imprévus de la vie, quoi. Ouais.
Catherine, bonjour. C'est intéressant effectivement d'évoquer maintenant peut-être vous avez commencé à le faire à l'instant, merci Bénédicte Lussereau, les astuces justement pour nous aider quand on a un peu des œillères, on ne voit pas trop comment faire pour s'en sortir.
Alors il y a des petits outils aujourd'hui qui existent et il y a un outil que j'aime bien qui est la roue des émotions. En fait c'est une roue dans laquelle on vous demande d'identifier d'abord une sensation corporelle, parce que ça part quand même beaucoup du corps. Par exemple, j'ai les larmes aux yeux. Cette sensation corporelle, elle va me donner une indication sur une émotion qui la sous-tend, la sensation. Par exemple, si j'ai les larmes aux yeux, c'est que je me sens un peu
blessée,
dévastée, désespérée, je sais pas. C'est peut-être un peu fort. Et ensuite, l'émotion va me donner une indication par rapport au besoin qui est encore sous-jacent. D'accord. À ça. Donc en fait, il y a une sorte de cohérence, de chemin qui est, je pars de ma sensation, j'identifie une émotion et ensuite j'identifie un besoin.
Il faut se faire accompagner peut-être pour l'identifier.
Ces petites roues là, elles sont cartonnées, c'est un éditeur belge qui fabrique ça et qui fabrique ça pour les enfants. Et il y a ça pour les enfants avec des pictogrammes et c'est super intéressant parce que finalement ça permet à la personne, vous savez ce qui nous rend le plus malade, c'est de ressentir des émotions physiques fortes et d'être impuissant par rapport à ça. Alors soit on va finir par se couper de notre ressenti physique, émotionnel, parce que c'est trop fort et on peut pas donner de sens. Donc en fait, ça nous permet de donner du sens à ce que l'on ressent, ça nous sert de carte et de boussole, et c'est chouette et c'est assez facile. Et cette roue, je la donne très souvent à mes patients et je leur dis, voilà, regardez, hop, où est-ce que vous en êtes là, qu'est-ce que vous ressentez. Parfois les gens sont tellement bloqués par rapport à leur ressenti que finalement ils pensent que ce qu'ils vivent leur va plus ou moins bien, ou ce que l'autre leur impose leur va plus ou moins bien.
Juste normal, etc.
Voilà.
Ouais. Allez-y, Dimine, à vous de jouer.
Oui, je pensais à autre chose, mais pour revenir à ce que vous avez tout à l'heure au sujet d'un couple sur deux qui divorce, je crois que ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est qu'on est dans une société de consommation. On est dans une société d'appli, on est dans une société où on appuie sur un bouton et on peut changer son pull, son repas et le commander, être livré à la maison. Et on a tendance à penser que tout doit aller bien tout le temps. On est aussi dans une société du développement personnel. Hein. Tout le monde est parfait, tout va bien, on boit de l'eau en poudre, on fait du yoga et la vie est belle. Et donc on se dit, en fait, si moi ça se passe pas bien dans mon couple, c'est que moi, c'est qu'il est pas, bien pour moi, quoi. Donc on se sépare.
Ouais.
Et on oublie de se dire que quand même, globalement, la lune de miel, c'est 3 ans, et qu'après, c'est la vraie vie, et que ça peut pas être tout touillou tout le temps, et que le même homme, alors je prends l'exemple de l'homme parce que je suis une femme, mais le même homme qu'on a vu jouer de la guitare sur la plage et qu'on trouvait excessivement sexy pendant les 15 premiers jours, au bout de 3 mois, au bout de sa guitare, on a envie de la balancer et de lui dire, toi, ta guitare et ton air. Et c'est le même air qui jouait 3 mois avant et qu'on trouvait, on disait, mais je veux vivre avec cet homme-là qui joue que ce morceau-là tout le restant de ma vie. Et on arrête, en fait. Et au lieu de se dire, OK, donc là, ça part en sucette, il va falloir qu'on se re-questionne, on jette. Et on se dit, c'est que ça ne marche pas. Parce qu'on cherche une espèce d'idéal et de perfection, comme on le cherche dans le développement personnel, en se disant, ce qui est juste, c'est qu'on soit parfait. Alors, je vais dire un truc un peu horrible, mais finalement, quand on se mariait il y a quelques années, et puis on vit plus vieux aussi, hein, on se marie aujourd'hui.
Attention, hein.
On se marie aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai,
mais oui, quand on vit marié, on se marie à 20 ans, mais qu'on mourait à 50 ans, c'est pas la même chose comme se marier à 20 ans et de mourir à 90. Ça fait la durée est rejouée. Je pense qu'avant, comme on n'avait pas ces applis, on n'avait pas cette idée, on se mariait en se disant, de toute façon, c'est comme ça, maintenant on est ensemble toute la vie. Donc, comment on fait pour jongler, pour y arriver? Ça marchait pas toujours, mais je pense qu'on peut trouver un juste milieu entre les deux. C'est-à-dire, en fait, ça marchait pas parce que on était mariés par nos parents, peut-être. Aujourd'hui, on n'y arrive pas et du coup, on se balance et on se dit, on va aller cliquer sur une appli, on en rencontrera un autre. Et on n'a pas ce juste milieu de dire, mais en fait, d'être mariés, d'être ensemble, c'est pas rigolo tous les jours. C'est comme le reste. Il y a des jours, c'est rigolo. Il y a des jours juste, on en peut plus.
Mais comme le reste, en fait. Hein.
Mais oui, mais c'est ça, en fait. C'est pas
Qu'on a peur parce qu'on est engagé, comme l'engagement fait peur aujourd'hui.
Je ne sais pas si c'est l'engagement qui fait peur. C'est le fait de dire, et comment on va être vu si on dit que notre couple ne marche pas, et comment on va dire aux autres que nous, c'est pas rose, alors qu'on est persuadé que chez les autres, c'est super génial.
Absolument. Ça, c'est une info importante à donner aussi. On a besoin de l'entendre, en tout cas. Même si on le sait, on a besoin de l'entendre. Merci, Ludivine Casilidoldier. Et merci beaucoup, Catherine Demangeau. Et merci, Bénédicte Lussereau. Vos ouvrages, Bénédicte Lussereau, Garder le cap après le mariage, prendre soin de son couple aux éditions de l'Emmanuel, et l'ABC du pape François pour les couples aussi à mentionner. Catherine Demangeau, merci. Votre podcast qui m'aime me suivre et Ludivine Casili, L'emprise douce au courrier du livre ainsi que l'audace d'être libre. Merci les amis.
Merci
beaucoup.
Merci
à tout le monde.